This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute.
Mon fils a changé complètement le cours de ma vie. Complètement. Et quand je l'ai perdu, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai vécu ça, il faut que j'en fasse quelque chose et il faut surtout que j'aide à mon niveau les parents qui vivent la même chose que moi. Et puis j'ai eu une opportunité de quitter mon entreprise parce qu'il y avait un licenciement économique. Je me suis dit, bah, c'est maintenant, faut que je prenne ça, cette opportunité et que je me dirige vers le soin. C'est maintenant. Je voulais travailler en maternité. Je me suis au départ renseignée sur le métier d'infirmière en maternité, le métier d'infirmière en salle de naissance. Mon objectif, c'était ça. Mon entourage m'a un peu a voulu me voilà pas me décourager, mais me dire t'es sûr que c'est vraiment ce que tu veux faire, ça va être douloureux, ça va remuer certaines choses, t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans. Oui, c'est vraiment ce que je veux faire. Ça n'a pas été simple, ne serait-ce que déjà au niveau de l'organisation, au niveau du travail, au niveau de l'emploi du temps, avec mes enfants, les stages, etc. Mais j'avais cet objectif de ce que je voulais faire. Voilà, mon objectif c'était travailler en maternité, travailler auprès de parents qui vivent le plus beau jour de leur vie, mais parfois aussi le plus douloureux. Et c'était vraiment mon objectif principal.
Il y a les projections que l'on se fait et des chemins qui semblent tout tracés. Le mariage, les enfants, on en aura deux, non, trois. Et puis patatras. Les certitudes volent en éclats. On comprend que tous ces projets que nous avions échafaudés étaient bien plus fragiles que prévu. Pourtant, on y croyait dur comme fer. Mais le château de cartes s'effondre. Car c'est bien de ça dont on prend conscience quand on traverse un deuil périnatal. De la fragilité des projets. De la fragilité de la vie, en fait. Dire au revoir à son bébé, c'est aussi dire au revoir à l'insouciance, à l'innocence. C'est prendre conscience que rien n'est complètement tracé, que tout peut basculer en fait, que les projections, on peut les balayer d'un revers de la main. La trajectoire qu'on avait envisagée au début, elle dévie. Virage à 360, sortie de route, embardée, c'est comme un accident. On est sonné, va falloir reprendre ses esprits avant de se remettre debout et ensuite de cheminer, si on y arrive. Mais quel chemin va-t-on prendre ensuite ? Et c'est là que l'on découvre des itinéraires bis, des voies inexplorées dont nous n'avions jamais vu le tracé sur une carte. C'est dur de renoncer à la trajectoire principale pour prendre ces sentiers que l'on a l'impression d'être seul à arpenter. C'est dur d'y renoncer, et puis en plus, ces itinéraires, on ne connaît pas toujours leur destination, et ça aussi, c'est dur à accepter. La fragilité à laquelle on ajoute l'incertitude, encore un enseignement du deuil périnatal dont on se serait bien passé. On ne peut jamais être sûr de rien. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Mais cette traversée, eh bien en fait, elle n'est pas que sombre ou solitaire. Alors ça, on ne peut pas s'en rendre compte sur le moment. C'est plutôt avec le recul du temps qui passe, des années qui passent. Suffit parfois de jeter un œil dans le rétro, de regarder un peu en arrière, et on voit en fait le chemin parcouru depuis ce virage à 360. On peut même dire qu'elle est belle, parfois, cette traversée. Qu'elle est belle malgré l'absence et le chagrin. Qu'elle est belle parce qu'il y a des accalmies, des rayons de soleil aussi. Et puis, il y a même des surprises. Il y a des détours, des bifurcations. Ça, on ne l'avait pas vu venir. Parce que la vie, en fait, elle réserve aussi des surprises, même après le pire. Je continue tout droit ou je tourne à gauche. Et si j'osais, et si je fonçais? Et dans ces moments-là, vous savez quoi? Eh bien, la boussole qui nous guide, elle porte parfois le prénom d'un bébé. Vivre sans son bébé, je suis d'accord avec vous, cela n'a aucun sens. Mais il n'empêche que parfois, même s'il n'est pas là, eh bien c'est lui qui nous montre la direction. Cet épisode, il est pour toi, Théo, toi qui guides Julie, ta maman, depuis le 11 avril 2006, depuis déjà 18 ans. Au revoir podcast, épisode 45, Julie, emprunter un autre chemin de vie. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Julie. Julie a une quarantaine d'années et elle habite en région parisienne avec son époux Jean-Marie. Ensemble, ils vivent avec leurs 6 enfants. Mais avant ces 6 enfants, il y a eu Théo. Théo, c'est l'aîné de cette grande fratrie. L'étoile qui veille sur toute la famille. Une étoile dont l'histoire commence en 2005.
J'ai toujours voulu avoir des enfants, je crois que c'est en moi depuis toute petite. J'ai rencontré mon mari très jeune, on a rapidement voulu se marier et on savait qu'on voulait de toute façon, après le mariage, fonder notre famille, avoir plusieurs enfants. On s'était dit qu'on en aurait 4. Je suis tombée enceinte très rapidement après notre mariage. J'étais euphorique à l'idée de devenir maman, de découvrir ce qu'était de porter la vie, d'avoir un enfant. J'étais très très heureuse d'apprendre cette grossesse, très heureuse, en même temps toujours un peu inquiète pour des petites choses. J'essayais de faire tout comme il fallait pour que tout se passe bien.
Nous sommes en mars 2006. Julie a 24 ans. Dans un peu plus de 2 mois, son bébé, son petit garçon, viendra au monde. Il s'appellera Théo. Théo, ça veut dire « don de Dieu » en grec. C'est le début du printemps et elle se rend comme tous les mois chez son gynécologue. Et comme tous les mois, c'est dans ses habitudes. Il fait une échographie de contrôle pour vérifier que tout va bien. Mais ce jour-là, quelque chose retient l'attention du médecin.
Lors de l'échographie, en fait, j'ai vu très vite son visage changer. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Lui, qui était un homme très, très souriant, très jovial, j'ai compris que, à travers son visage, que voilà, quelque chose n'allait pas et que c'était assez grave. J'étais assez proche de lui et en fait, il m'a pris la main. Il m'a dit :« Je suis désolée, votre bébé a un problème. Il est malade. Il faut qu'on aille faire d'autres examens pour voir ce qui se passe. » Pour moi, passer les 3 premiers mois de grossesse, les 2 premières échographies, j'allais forcément avoir un enfant. J'avais même pas ça en tête qu'il était possible de perdre son enfant à 7 mois de grossesse. C'est complètement inconnu pour moi, totalement inconnu. Quand ça nous est tombé dessus, on s'est dit on va le soigner, ça va aller, mais je vais avoir mon enfant. J'imaginais absolument pas qu'on pouvait perdre son enfant si tard dans la grossesse. Donc ce 24 mars 2006, on a fait une échographie un peu plus poussée dans un centre d'échographie. ensuite un médecin qui est aussi médecin en diagnostic anténatal d'un autre hôpital nous a dit qu'on allait être pris en charge le lundi suivant au service donc de grossesse à risque. Et plusieurs examens allaient être faits. Donc le lundi, effectivement, je me suis rendue là-bas. On a fait plusieurs échographies, une amniosynthèse. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était un monde, effectivement, complètement inconnu. Je n'avais pas du tout imaginé qu'il était possible d'interrompre la grossesse aussi tard pour des raisons médicales. Quand on nous a expliqué, effectivement, que Théo était gravement malade, il avait fait une hémorragie cérébrale massive à la suite des autres malformations qu'on avait découvertes. On nous a expliqué voilà, que deux choix s'offraient à nous. Soit on poursuivait la grossesse, mais vu son état, il allait très certainement décéder dans les jours qui suivaient, ou à la naissance, il ne supporterait certainement pas la naissance. Soit on pouvait, puisque c'était une maladie incurable et d'une particulière gravité, décider d'interrompre la grossesse. Et donc là, c'est le sol qui s'ouvre sous nos pieds, le monde qui s'écroule. On n'avait absolument pas conscience de ça. On était très jeunes, c'était notre premier enfant. Et on n'avait absolument pas conscience qu'on pouvait interrompre la grossesse parce que notre enfant était gravement malade.
IMG. Interruption médicale de grossesse. Ces trois lettres sont prononcées. Julie et son mari se retrouvent catapultés dans ce territoire inconnu de la plupart des gens, sauf de celles et ceux dont le bébé ne va pas bien. Dont le bébé a une maladie particulièrement grave et incurable au moment du diagnostic, selon la formule consacrée. Dans ce territoire, il y a deux chemins. D'un côté, on poursuit la grossesse, et de l'autre, on l'interrompt. Enfin, on l'interrompt. Plus précisément et plus justement, je dirais plutôt que quand on emprunte ce second chemin, eh bien on accompagne le bébé in utero. Mais dans tous les cas, face à ces alternatives, il va falloir prendre une décision.
Quand les médecins nous ont donc parlé de ces deux possibilités, donc ensuite ils nous ont laissé tous les deux pour discuter, rapidement, on s'est dit qu'on pouvait pas lui offrir... Moi, je voulais surtout pas qu'il souffre, en fait. Jean-Marie, c'est pareil. On refusait qu'il souffre. Et on voulait pas que le laisser souffrir, le laisser souffrir à la naissance ou le laisser décéder dans mon ventre. Donc, on s'est dit, la seule solution, c'est effectivement d'interrompre cette grossesse pour pas lui offrir une vie de souffrance. On préférait souffrir, nous, psychologiquement... Et on n'avait pas conscience à l'époque de vraiment ce que ça allait impliquer, plutôt que de le laisser souffrir lui physiquement. Et effectivement, Jean-Marie, tout de suite, c'est ce qui l'a inquiété, c'est de savoir comment j'allais vivre les choses physiquement. Il m'a dit, mais tu te rends compte, tu vas devoir accoucher de notre bébé qui sera décédé, mais comment tu vas faire ? Enfin, vraiment, sa crainte, c'était comment moi, j'allais le vivre physiquement et psychologiquement. Il voulait pas que je souffre, moi non plus. Je me suis beaucoup renfermée. Je voulais être uniquement avec Jean-Marie, qu'on soit tous les deux, sans personne. Et notre entourage a respecté ça. Moi, je pouvais plus parler du tout à personne. Donc, c'était Jean-Marie qui faisait l'intermédiaire entre nos amis et moi. Nos parents, nos frères et sœurs ont été vraiment formidables, bienveillants. Ils nous ont vraiment entourés, ont compris tous nos choix, nos décisions. Et encore maintenant, ils sont bienveillants à l'égard de notre histoire et à l'égard de Théo, qui est pour eux, qui reste leur petit-fils, leur neveu.
Trois semaines se sont écoulées entre les premiers examens et ce moment de l'IMG. Trois semaines à se demander d'abord si Théo allait pouvoir vivre, dans quelles conditions, et puis ensuite on prend la décision. Trois semaines à multiplier les rendez-vous, à écumer les salles d'attente, à côtoyer les femmes enceintes qui se rendent dans ces mêmes lieux, mais pas pour la même chose. Dans les salles d'attente, en fait, l'attente n'est pas la même pour toutes et tous. Et ces trois semaines d'attente... Ce moment suspendu entre espoir et désespoir, Julie les revit tous les ans. Mentalement, elle reprend le même chemin, se souvient de tous ses recoins, de la météo, de l'arrivée du soleil et du début du printemps. C'était en avril, il y a 18 ans.
Ces 3 semaines de très intense émotionnellement, très très difficile. La chronologie restera toujours jusqu'à ma mort, je crois. Après, je suis quelqu'un qui est quand même assez sensible aux dates, et d'autant plus certainement depuis cette période. Et effectivement, je sais exactement ce qui s'est passé, quel jour. C'est des dates qui résonnent en moi encore. Ça reste en nous. C'est gravé, c'est indélébile. Et c'est toujours une période, pas délicate, mais particulière. Il y a des années où c'est plus facile que d'autres. Où voilà, ça, les journées passent et bon, ça se passe bien. Et puis il y a d'autres années, je ne sais pas pourquoi, bah, certainement par rapport à ce qui m'entoure, ce qui se passe pour moi dans ma vie personnelle, bah, c'est un peu plus délicat. Le souvenir est plus présent. Voilà, la cicatrice est un petit peu plus douloureuse. La cicatrice s'est refermée, mais parfois elle est toujours un peu inflammatoire, je dirais. Les jours où il fait beau, c'est, voilà, encore une fois, c'est des flashbacks, ça me remémore. Ben voilà, il y a 16 ans, il y a 15 ans, 14 ans, j'étais à tel endroit, il faisait beau comme aujourd'hui. J'étais la plus malheureuse du monde et voilà, c'est comme d'autres ont des souvenirs, je sais pas, peut-être olfactifs, d'autres. Moi, c'est ça, c'est ce que je peux ressentir au niveau de la météo ou autre chose. Dans quel état j'étais à ce moment-là, comment je suis aujourd'hui, ça revient en nous.
Et puis il y a cette date qui arrive, cette date d'avril. Jour de rencontre, jour pour se fabriquer des souvenirs qui dureront toute la vie. Ce 11 avril 2006.
Je me souviens pas précisément de comment nous sont venues ces envies, cette décision, ce choix de l'accompagner. Je sais que pour moi, c'était une évidence. C'était mon enfant, je voulais l'accompagner coûte que coûte, voilà, dans sa naissance. Et je voulais surtout me créer des souvenirs qui resteraient pour apaiser ma douleur. Et donc, j'ai réfléchi à ce qui pouvait être fait. Donc, on est allé lui acheter des petits vêtements. Effectivement, j'ai demandé à la sage-femme d'avoir une mèche de cheveux si c'était possible, parce qu'à l'échographie, on m'a dit qu'il avait déjà quelques cheveux. J'ai demandé à la sage-femme d'avoir le plus de me créer le plus de souvenirs possible. Et on a demandé aussi à la sage-femme, quand Théo allait naître, de le prendre tout de suite. On nous a expliqué, en fait, avant, en entretien, avant l'IMG, avec la sage-femme du Dan, elle nous avait expliqué comment le dérouler, comment tout allait se passer. Elle nous a dit, voilà, quand il va naître, on va l'emporter dans une salle à côté. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas emporter mon fils comme ça sans que je le voie. J'aurais eu l'impression qu'on me l'arrachait une seconde fois. Et donc j'ai dit, mais moi j'aimerais, est-ce que c'est possible? Moi j'aimerais qu'on me le donne tout de suite. Et donc la sage-femme du Dan m'a dit, bien sûr, il faudra voir avec la sage-femme le jour J, mais si c'est votre souhait, bien sûr vous pouvez lui en faire part. Et le jour J, effectivement, le jour de l'IMG, j'en ai fait part à la sage-femme qui était une très jeune sage-femme. Je pense qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'accompagnement, de deuil périnatal, mais elle a été formidable malgré tout. Je lui ai dit, voilà, si c'est possible, si mon fils est visible, parce que je savais qu'il avait des œdèmes au niveau du visage, donc j'avais peur malgré tout de le voir, même si j'en avais très envie. Si c'est possible, j'aimerais que vous me le donniez tout de suite avant de l'emmener. Elle a été très, très marquée par notre demande, très émue, mais effectivement, c'est ce qu'elle a fait et ça a été un moment très, très intense. Pour Jean-Marie aussi, je me souviens pas très bien, mais il me semble même pas en avoir parlé avec lui avant. On s'est regardé, on a su de toute façon qu'on voulait le voir tout de suite. Et c'était une envie, effectivement, c'était instinctif. Il fallait qu'on me laisse mon enfant tout de suite, qu'on ne me l'enlève pas immédiatement. C'était une très belle rencontre, malgré ce qu'on peut penser. C'était l'un des moments les plus importants de toute ma vie. C'était très, très doux, très apaisé. J'ai demandé à la sage-femme à ce qu'elle me donne mon fils tout de suite, donc s'il était visible. Et elle a eu des mots qui m'ont vraiment réconfortée. Quand il est né, quand il est sorti de mon ventre, elle m'a regardée en me disant « Il est beau votre bébé, madame. Je peux vous le donner. » Et ces mots, je crois qu'ils resteront gravés en moi jusqu'à ma mort. C'est ce qui m'a aidée aussi à l'accueillir du mieux possible et à vivre ce moment pleinement. J'en avais besoin pour me reconstruire par la suite.
Et la suite, vous la connaissez peut-être, vous qui vivez ce deuil. On parle souvent du chemin de la reconstruction après l'effondrement. Mais avant de se remettre debout et d'être de nouveau capable de marcher, il faut déjà apprivoiser le vide et la peur de tomber.
Dans les semaines qu'on suivit, c'était surtout... J'ai ressenti un grand vide et beaucoup de craintes sur l'avenir. On avait forcément prévu les mois qui allaient suivre et tout s'arrête. Tout s'arrête, tout ce qu'on avait prévu, toutes les échéances, tout. C'est ce que je dis souvent, c'est le deuil de l'avenir. Il faut tout repenser, tout recréer. Créer des nouveaux projets, ça c'est très difficile. En plus, moi je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup, qui organise beaucoup, qui pense à l'avance à ce que je vais pouvoir faire. Et voilà, là plus rien. Et il faut recommencer à espérer, recommencer à avoir des projets, recommencer à vivre. Et ça, c'est très compliqué. En tout cas, moi, c'est cette impression que j'ai eue. J'ai été très bien accompagnée en amont, pendant, et je suis rentrée chez moi, j'étais toute seule. J'avais mon entourage, bien sûr, qui était très, très proche et très bienveillant, mais je me suis sentie seule et plus accompagnée après. Je me souviens que j'avais demandé à revoir, j'avais appelé quelques semaines après l'hôpital pour revoir la psychologue que j'avais vue pendant l'IMG. Au moment de l'IMG, et on m'avait dit, mais c'est pas possible, en fait, cette psychologue, elle est là que pour les mamans hospitalisées, et maintenant c'est à vous de trouver quelqu'un en libéral près de chez vous, et j'ai pas trouvé. Et en fait, du coup, j'étais toute seule, j'ai eu aucun accompagnement ensuite. Donc, déjà, il y a eu ça, où je me suis dit, je suis livrée à moi-même, personne pour m'aider, je suis toute seule avec ma douleur, avec mes craintes, je savais pas. Plus quoi attendre, en fait, de la vie, vraiment, dans les semaines qu'on suivit. Je me suis dit que je n'aurais plus jamais d'insouciance en ce qui concerne la maternité, que j'aurais toujours cette crainte de perdre mon enfant, et je me demandais si j'allais vraiment un jour réussir à avoir un autre enfant. Est-ce que je vais avoir un enfant un jour? Est-ce que je vais pouvoir devenir maman?
Cette question, je crois qu'on se l'est toutes posée. Est-ce que je vais pouvoir devenir maman? Devenir maman d'un enfant vivant. Parce qu'envisager l'avenir quand on vit un deuil périnatal, c'est voir un futur sans l'enfant tant attendu, mais c'est aussi se demander, vais-je être de nouveau enceinte? Et si je le suis, eh bien que se passera-t-il? Être enceinte, Julie, elle a eu cette chance. Par 6 fois. Après cette première grossesse, elle a eu 6 autres enfants. 6 petits frères et sœurs pour Théo. Quelques mois après l'IMG, elle est de nouveau enceinte. Elle est très suivie médicalement parlant, Julie, mais psychologiquement, personne n'est là pour l'accompagner alors qu'elle est en train de vivre les remous de cette grossesse d'après, cette grossesse marquée par la fin de l'insouciance. Parce qu'à partir du moment où l'on a vécu le pire, ce n'est plus possible, en fait, de fermer les yeux. Alors j'ai demandé à Julie, est-ce que l'inquiétude devient un peu moins grande au fur et à mesure des grossesses?
J'ai toujours eu cette crainte de perdre mon enfant. Jusqu'au bout, pour toutes, plus ou moins, de manière plus ou moins forte à chaque fois. Certaines grossesses, ça a été un peu plus léger, d'autres, c'était un peu plus présent. Et puis toujours avec cette échéance des 32 semaines où, voilà, l'échographie du troisième trimestre, je ne l'avais pas encore faite pour Théo, j'allais juste la faire 2-3 semaines après. Donc cette échographie du troisième trimestre, elle est toujours délicate pour moi. Après, j'ai quand même la grossesse qui a suivi juste après Théo a été particulière, bien sûr. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, beaucoup appréhendé chaque étape de la grossesse. Je craignais surtout forcément la période de 32 semaines, 29 semaines au moment de l'annonce, 32 semaines au moment du décès de Théo. Et puis après, de 32 à 41 semaines, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et oui, et effectivement, pendant cette grossesse qui a suivi, j'ai eu aucun accompagnement psychologique, aucune aide. Je pense que ça a contribué aussi au fait que j'ai, après la naissance d'Antoine, fait une dépression du postpartum assez importante, qui a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'en ai pas pris conscience tout de suite, mais vraiment ça s'est installé. Je pense que voilà, le fait de ne pas être accompagnée juste après le décès de Théo et ensuite pour la grossesse qui a suivi, ça a contribué aussi à tout ça. Je me disais, bon, c'est un baby blues qui dure un petit peu trop longtemps, mais voilà, ça a été l'accueil de mon second enfant, donc d'Antoine, a été très difficile encore maintenant. Voilà, c'est un souvenir assez marquant parce que j'étais en même temps... la femme la plus heureuse du monde d'avoir enfin mon enfant vivant dans mes bras et en même temps la mère la plus malheureuse parce que je venais juste un an avant, un an jour pour jour presque, de perdre l'un de mes enfants et je devais m'occuper de ce deuxième petit alors que j'avais en moi une douleur immense qui est envahissante. J'ai gardé ça pour moi. J'en ai parlé à mon mari. Je crois que c'est la seule personne à qui j'en ai parlé. Vraiment. Même à ma maman, je me souviens que toute mon enfance, j'ai été élevée avec l'idée de le baby blues, ça n'existe. Enfin, la dépression du postpartum, ça n'existe pas. Le baby blues non plus, c'est pas possible. On peut pas être malheureuse dans ces moments-là, alors que c'est le moment le plus beau de notre vie. C'est pas possible. Donc j'ai eu ça en moi, et donc je n'osais pas dire même à ma propre mère que bah, moi, si, je suis désolée, mais je suis très heureuse d'avoir mon fils, il m'a sauvée, vraiment, Antoine m'a sauvée, mais malgré tout, je suis aussi profondément malheureuse. Et ouais, j'avais une culpabilité, c'était dur pour moi d'exprimer ça, c'était impossible.
Il y a 17-18 ans, Julie s'est sentie très seule. Peu voire pas du tout accompagné. Comme si le deuil se réduisait à cet instant T de l'accouchement et qu'après tout allait forcément mieux. Le pire est derrière vous en fait. Aujourd'hui, les choses elles ont évolué, mais selon les endroits où vous vivez, selon la qualité de la prise en charge qu'on vous propose, peut-être que vous aussi vous ressentez cette solitude, vous sentez que ça dérape. Alors n'hésitez pas à contacter des associations spécialisées dans le deuil périnatal ou des structures qui pourront vous orienter vers des personnes compétentes pour vous aider. Je pense notamment à l'association Maman Blouse. Je vous mettrai toutes ces ressources dans la description de l'épisode que vous écoutez. Mais revenons-en maintenant à Julie. Petit à petit, Julie se reconstruit, elle chemine à son rythme. Grâce à l'écriture, on en reparlera plus tard, mais aussi grâce à son bébé. Grâce à ses bébés, plutôt. Grâce à Théo, dont le manque est abyssal, mais dont le souvenir est très vif. Grâce à Antoine, qui vient au monde en 2007, un an après. Et à sa petite sœur, qui naît 16 mois plus tard. Et puis, lors de cette troisième grossesse, Julie prend un itinéraire dont elle ne connaît pas encore tout à fait la destination. La vie réserve des surprises, le chemin du deuil est constitué de virages. Et ce virage, pour Julie, il est professionnel. Et sa boussole, eh bien c'est Théo.
Mon fils a changé complètement le cours de ma vie, complètement. Et quand je l'ai perdu, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai vécu ça, il faut que j'en fasse quelque chose et il faut surtout que j'aide à mon niveau les parents qui vivent la même chose que moi. Et puis j'ai eu une opportunité de quitter mon entreprise parce qu'il y avait un licenciement économique. Je me suis dit, bah, c'est maintenant, faut que je prenne ça, cette opportunité, et que je me dirige vers le soin. C'est maintenant. Je voulais travailler en maternité. Je me suis au départ renseignée sur le métier d'infirmière en maternité, le métier d'infirmière en salle de naissance. Mon objectif, c'était ça. Mon entourage m'a un peu a voulu me voilà pas me décourager, mais me dire, t'es sûre que c'est vraiment ce que tu veux faire, ça va être douloureux, ça va remuer certaines choses, t'es sûre que tu veux te lancer là-dedans? Oui, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc ça n'a pas été simple. Mon fils avait 2 ans et demi, donc il est rentré en toute petite section de maternelle. Ma fille avait tout juste 1 an. J'ai passé le concours effectivement avant ça, enceinte d'elle. J'ai passé l'oral d'école d'infirmière. J'étais enceinte de 8 mois. Je me suis dit, bon, bah, si je l'ai cette année, parce que je me suis dit peut-être que je l'aurai pas cette année, et du coup, il faudrait que je le repasse l'année prochaine. Mais je le tente. Bon, je l'ai eu, et du coup, j'ai demandé un report de scolarité d'un an pour pouvoir avoir tranquillement ma fille. Ça n'a pas été simple, ne serait-ce que déjà au niveau de l'organisation, au niveau du travail, au niveau de l'emploi du temps avec mes enfants, les stages, etc. Mais j'avais cet objectif de ce que je voulais faire. Voilà, mon objectif, c'était travailler en maternité, travailler auprès de parents qui vivent le plus beau jour de leur vie, mais parfois aussi le plus douloureux. Et c'était vraiment mon objectif principal.
Pendant ses 3 années d'études, elle n'oublie pas cet objectif. On lui dit que ça va lui faire mal, que ça va être trop douloureux d'accompagner le deuil des autres. Mais non, c'est sa mission, elle ne s'en détourne pas. Elle consacre même son mémoire de fin d'études au deuil périnatal. Alors quand elle obtient son diplôme, elle accepte un poste dans une maternité de région parisienne. Julie, maman de Théo, devient Julie, l'infirmière qui travaille avec des sages-femmes, avec des auxiliaires de puériculture. Elle prend ses marques dans les salles de naissance, accompagne les mamans qui viennent d'accoucher, prend l'heure constante par exemple. Elle est là pour elle, pour leur bébé, pour les couples. Elle est là quand ça se passe bien, mais aussi quand rien ne va plus. Car Julie, elle sait à quel point un seul mot, un regard, une main posée sur l'épaule peuvent être précieux. Et Julie, elle n'est jamais seule dans ces moments-là. Elle est avec Théo, en fait.
J'ai toujours mon fils en tête. J'avais toujours dans ces moments-là mon fils en tête en me disant, nous on l'a vécu tous les deux. Et du coup, je vais essayer d'accompagner ses parents et d'accompagner ses enfants qui viennent de décéder au mieux. Pour que tu sois fière de moi et pour que ses parents se sentent bien accompagnés, que ça n'amplifie pas leur souffrance, leur vécu de ce moment. Et je lui disais, bon, bah là, ce petit, faut que tu l'accueilles bien auprès de toi, à tes côtés. J'ai des mamans qui m'ont marquée, vraiment. J'ai des couples, j'en ai un en tête qui appréhendait énormément de voir son enfant. Et puis avec la sage-femme, là encore, petit à petit, pendant le travail, on a essayé d'aborder les choses de manière délicate. On a essayé de leur dire que peut-être que c'était quelque chose qui pouvait les aider ensuite. Au départ, ils étaient complètement fermés à l'idée de voir leur enfant. Et puis petit à petit, ça a cheminé. Après la naissance de cet enfant, ils se sont dit, bon, bah oui, on accepte de le voir. Et c'était un couple qui avait l'air très, très fermé, très renfermé, qui ne nous parlait pas beaucoup. Une fois qu'ils ont vu leur enfant, ils ont complètement changé. Et ils nous ont remercié 1 millier de fois. Même physiquement, leur regard, ils nous ont souri, ils nous ont dit merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir guidés vers avoir notre enfant. Ça nous aide. Ce couple m'a vraiment marquée. J'ai aussi une autre maman qui m'a marquée, elle pleurait énormément. À un moment, j'étais toute seule avec elle en salle. Elle m'a pris les mains et elle m'a dit « Mais comment je vais m'en sortir ? Je m'en sortirai jamais. » Elle avait déjà 2 enfants vivants. Et donc là, elle perdait son 3e. « Comment je vais m'en sortir ? Je m'en sortirai jamais. Plus jamais je pourrai sourire. » Et je l'ai regardée droit dans les yeux et je dis « Si madame, je vous promets, ça, vous n'oublierez jamais. Mais ça va aller, vous allez, petit à petit, vous allez vous en sortir sans jamais oublier votre enfant. » Et elle a compris, elle m'a regardée droit dans les yeux et elle m'a dit « Mais ça vous est arrivé ?» Et c'était j'ai très rarement dit que ça m'était arrivé parce que je voulais pas, encore une fois, prendre la place, voilà, j'accompagne ses parents, c'est pas de moi dont on parle, c'est pas du décès de mon enfant, c'est vraiment ses parents-là. Et je me suis autorisée ce jour-là à lui dire oui, ça m'est arrivé, et je vous promets que ça va aller. Et là, elle m'a remerciée.
Il y a les gestes que l'on fait, les regards que l'on adresse, les mots que l'on prononce et qui font du bien. Et puis, il y a les mots que l'on écrit aussi. 2 semaines après le décès de Théo, Julie écrit régulièrement sur le blog d'une plateforme dédiée aux femmes. Ça dure quelques mois et ça lui fait du bien. Quelques mois durant lesquels elle verbalise ce qu'elle ne parvient pas à exprimer à ses proches. Et puis un jour, elle sort en quelque sorte de sa coquille. Écrire, oui, mais pas que pour elle, pour les autres. Et en premier lieu, pour sa famille, pour ses enfants. Un peu plus de 10 ans après avoir publié ses premiers articles sur Internet, Julie publie un livre, intitulé « Ma petite plume ». Il retrace l'histoire de Théo, de cette première grossesse, un autre virage que Julie n'aurait jamais envisagé de prendre.
Quand la machine a été lancée, je me suis dit « Ah oui, alors effectivement, on va publier tant, ça va être lu, ça va être distribué là, 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 ah oui, donc du coup tout le monde va connaître mon histoire ». C'est un truc tout bête, mais je me suis dit, tout le monde va connaître les prénoms de mes enfants. Enfin, je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui était en moi. Enfin, voilà, tout le monde va... Au début, j'ai eu des craintes, et puis je me suis dit, oui, mais ça... Si je peux aider, ne serait-ce que un couple endeuillé, à être un peu plus apaisé, à retrouver un peu d'espoir, ben voilà, ce sera ça de gagner. J'aurais au moins aidé, à mon humble niveau, ce couple-là. Donc j'ai dépassé mes appréhensions. Et effectivement, maintenant, c'est devenu en plus une trace mémorielle pour ma famille, mes enfants surtout. Ils connaissent vraiment leur histoire parce qu'avant eux, bah, il y avait un autre, il y avait un grand frère et il a sa place d'aîné, vraiment. Enfin, après, c'est un peu délicat pour Antoine qui est physiquement l'aîné vraiment de nos 6 enfants. Mais lui, comme les autres, savent qu'il y a ce grand frère. On a une photo de lui assez discrète dans notre chambre. Les enfants, voilà, peuvent la voir sans tabou. Ils peuvent nous en parler quand ils en ont envie. On parle de lui de temps en temps. Hier, on est allé se recueillir sur sa tombe. On lui a apporté des fleurs. Il a une vraie place dans notre famille. Les enfants, quand ils vivent quelque chose de délicat ou douloureux, souvent ils disent « bon bah c'est pas grave, mon grand frère va m'aider, il veille sur moi ». Sans être là physiquement, il a cette place de grand frère protecteur, il veille sur eux. Sans que nous, on ait voulu forcer les choses, il a pris cette place-là. Les enfants ont vraiment l'impression que leur frère veille sur eux et pour eux, il existe vraiment. J'aimerais le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté. Eh bien, je me suis dit qu'il y avait un avant et un après, vraiment. Et que Théo a changé totalement le cours de ma vie. Je pense que sans lui, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Sa perte a été l'épreuve la plus douloureuse de ma vie, mais aussi une épreuve qui m'a fait grandir et qui est devenue mon combat. Et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et surtout, j'ai voulu en faire quelque chose de ça, de ce qui m'est arrivé. Encore une fois, avec toujours l'idée que les parents qui vivaient la même chose ne se sentent pas seuls ou moins seuls, accompagner toujours ses parents.
Cet épisode touche à sa fin et je te remercie, Julie, d'avoir raconté au micro d'Au Revoir Podcast ton histoire, celle de Théo, celle de ta famille. Aujourd'hui, Julie ne travaille plus à l'hôpital, elle est directrice de crèche et elle se destine à accompagner encore plus les parents qui vivent un deuil périnatal. Encore une nouvelle orientation professionnelle sous le regard de Théo. Dans cet épisode, je vous ai parlé du livre écrit par Julie. Il s'intitule « Ma petite plume, vivre et surmonter l'interruption médicale de grossesse ». Je vous ai également parlé d'associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes qui vivent un deuil périnatal. Si vous recherchez de l'aide et du soutien, vous pouvez vous orienter notamment vers les associations Petite Émilie, Agapa et Spama. Et si vous traversez des difficultés maternelles, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association Maman Blouse. Je vous mets tous les liens directs vers ces associations dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivré et je suis aux manettes d'Au Revoir Podcast depuis septembre 2020. Si vous souhaitez soutenir ce projet et donner au deuil périnatal plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.